jaloux d'embrasser tout le cercle des connaissances humaines et désireux de donner à son génie encyclopédique un symbole concret et un appareil conforme à ses moyens pécuniaires, le baron Alexandre d'Esparvieux avait formé une bibliothèque de 360 000 volumes, tant imprimés que manuscrits, dont le fonds principal provenait des bénédictins de Ligugé. Par une clause spéciale de son testament, il avait prescrit à ses héritiers d'accroître après lui sa bibliothèque de tout ce qui paraîtrait d'important en sciences naturelles, morales, politiques, sociales, philosophiques et religieuses. Il avait indiqué les sommes qu'il convenait de prélever à cet effet sur sa succession et chargé son fils aîné, Fulgence Adolphe, de procéder à ces accroissements. Fulgence Adolphe accomplit, avec un respect filial, les volontés exprimées par son illustre père. Après lui, cette bibliothèque immense, qui représentait plus qu'une part d'enfant, resta indivise entre les trois fils et les deux filles du sénateur, et René d'Esparvieux, à qui échut l'hôtel de la rue Garancière, reçut la garde de cette riche collection. Ses deux sœurs, Mesdames Paulet de Saint-Fin et Cuissard, demandèrent plusieurs fois la liquidation d'un bien considérable et qui n'en rapportait rien. Mais René et Gaétan rachetèrent la part de leurs deux co-héritiers et la bibliothèque fut sauvée. René d'Esparvieux s'occupa même de l'accroître, conformément aux intentions du fondateur. Mais d'année en année, il diminuait le nombre et l'importance des acquisitions, estimant que la production intellectuelle baissait en Europe. Gaétan, cependant, l'enrichissait, sur ses deniers, des ouvrages nouveaux, publiés tant en France qu'à l'étranger, qu'il estimait bons et il ne manquait pas de jugement, bien que ses frères lui en refusassent jusqu'à la moindre parcelle. Grâce à cet homme oisif et curieux, les collections du baron Alexandre furent à peu près tenues à jour. La bibliothèque d'Esparvieux est encore aujourd'hui, en théologie, en jurisprudence et en histoire, une des plus belles bibliothèques privées de toute l'Europe. Vous y pouvez étudier la physique, ou pour mieux dire, les physiques, dans toutes leurs branches. Et pour peu qu'il vous en chaille, la métaphysique ou les métaphysiques, c'est-à-dire ce qui est joint aux physiques et qui n'a pas d'autre nom, tant il est impossible de désigner par un substantif ce qui n'a point de substance et n'est que rêve et illusion. Vous pouvez y admirer les philosophes procédant à la solution, dissolution et résolution de l'absolu, à la détermination de la déterminée et à la définition de l'infini. Tout se rencontre dans cet amas de bibles et de bibliettes sacrées et profanes, tout jusqu'au pragmatisme le plus nouveau et le plus élégant. D'autres bibliothèques contiennent plus abondamment ces reliures vénérables par l'ancienneté, illustre par la provenance, suave par le grain et le ton de la peau, précieuse par l'art d'une horreur qui a poussé les fers en filets, en dentelles, en rinceaux, en fleurons, en emblèmes, en armoiries, et qui, de leurs doux éclats, charment les yeux savants. D'autres peuvent renfermer en plus grand nombre des manuscrits ornés par un passant vénitien, flamand ou tourangeau, de fines et vives miniatures. Aucune ne surpasse celle-ci en belles et bonnes éditions des auteurs anciens et modernes, sacrés et profanes. On y trouve tout ce qui nous reste de l'Antiquité. Tous les pères de l'Église et les apologistes et les décrétalistes, tous les humanistes de la Renaissance, tous les encyclopédistes, toute la philosophie, toute la science. C'est ce qui fit dire au cardinal Merlin, quand il daigna la visiter, « Il n'y a pas d'homme qui ait la tête assez forte pour contenir toute la science amassée sur ses tablettes. Heureusement que ce n'est point nécessaire. » Monseigneur Cachepot, qui y travaillait souvent lorsqu'il était vicaire à Paris, avait coutume de dire « Je vois là de quoi faire plusieurs Thomas d'Aquin et plusieurs Arius si les esprits n'avaient perdu leur antique ardeur pour le bien et pour le mal. » Les manuscrits constituaient sans contredit la plus grande richesse de cette immense collection. Il s'y trouvait notamment des correspondances inédites de Gassendi, du Père Mersenne, de Pascal, qui jettent des clartés nouvelles sur l'esprit du XVIIe siècle. Et il n'est point permis d'oublier les Bibles hébraïques, les Talmuds, les traités rabbiniques imprimés et manuscrits, les textes araméens et samaritains sur peau de mouton et sur lame de sycomore, tous ces exemplaires enfin, antiques et précieux, recueillis en Égypte et en Syrie par le célèbre Moïse de Dina, et qu'Alexandre d'Esparvieux avait acquis à peu de frais, lorsqu'en 1836, le savant hébraïsant va mourir de vieillesse et de misère à Paris. La bibliothèque esparvienne occupait le second étage de la vieille demeure. Les ouvrages jugés d'un intérêt médiocre, tels que les livres d'exégèse protestante du 19e et du 20e, donnés par M. Gaétan, étaient relégués sans reliure dans la profondeur infinie des combles. Le catalogue avec les suppléments ne formait pas moins de 18 volumes in folio. Ce catalogue était à jour, et la bibliothèque dans un endroit parfait. Monsieur Julien Sariette, archiviste paléographe qui, pauvre et modeste, donnait des leçons pour vivre, devint, en 1895, sur la recommandation de l'évêque d'Agra, précepteur du jeune Maurice et presque en même temps conservateur de l'Esparvienne. Doué d'une activité méthodique et d'une passion obstinée, M. Sariette avait classé lui-même toutes les pièces de ce vaste corps. Le système par lui conçu et appliqué était à ce point complexe, les codes qu'il mettait au livre se composaient de tant de lettres majuscules et minuscules, latines et grecques, de tant de chiffres arabes et romains accompagnés d'astérisques, de double astérisque, de triple astérisque et de ces signes qui expriment en arithmétique les grandeurs et les racines, que l'étude en eût coûté plus de temps et de travail qu'il n'en faut pour apprendre parfaitement l'algèbre, et, comme il ne se trouva personne qui voulût donner à l'approfondissement de ces symboles obscurs des heures mieux employées à découvrir les lois et les nombres, M. Sariette demeura seul capable de se reconnaître dans ces classements, et se devint chose à tout jamais impossible de trouver sans son aide, parmi les 360 000 volumes confiés à sa garde, le livre dont on avait besoin. Tel était le résultat de ses soins. Bien éloigné de s'en plaindre, il en éprouvait au contraire une vive satisfaction. M. Sariette aimait sa bibliothèque. Il l'aimait d'un amour jaloux. Chaque jour, il s'y rendait dès 7 heures du matin, et là, sur un grand bureau d'acajou, il cataloguait. Les fiches écrites de sa main remplissaient le cartonnier monumental dressé près de lui, et que surmontait le buste en plâtre d'Alexandre l'Esparvieux, les cheveux en coup de vent, le regard sublime portant, comme Chateaubriand, la patte de lièvre au bord de l'oreille, la bouche arrondie, la poitrine nue. À midi sonnant, M. Sariette allait déjeuner, dans l'étroite et sombre rue des Canettes, à la crèmerie des Quatre Évêques, jadis fréquentée par Baudelaire, Théodore de Banville, Charles Asselineau, Louis Ménard et un grand d'Espagne qui avait traduit les mystères de Paris dans la langue des conquistadors. Et les cannes qui barbotent si gentiment sur la vieille enseigne de pierre qui a donné son nom à la rue reconnaissent M. Sariette. Il rentrait à 12h15 précisément dans sa bibliothèque, dont il ne sortait qu'à 7h pour aller s'asseoir aux Quatre Évêques devant sa table frugale couronnée de pruneaux. Tous les soirs après dîner, son camarade, Michel Guinardon, universellement nommé le père Guinardon, peintre décorateur, réparateur de tableaux, qui travaillait pour les églises, venait de son grenier de la rue Princesse aux Quatre Évêques prendre le café et les liqueurs, et les deux amis faisaient leur partie de domino. Le père Guinardin, d'une âpre verdeur et plein de sève, était plus vieux qu'il ne se pouvait concevoir. Il avait connu Chenavard. D'une chasteté farouche, il dénonçait constamment les impuretés du néopaganisme en un langage d'une obscénité formidable, il aimait à parler. Monsieur Sariette écoutait volontiers. Le père Guinardon entretenait préférablement son ami de la Chapelle des Anges, à Saint-Sulpice, dont les peintures s'écaillaient par endroits et qu'il devait restaurer quand il plairait à Dieu, car, depuis la séparation, les églises n'appartenaient plus qu'à Dieu et personne n'assumait la charge des réparations les plus urgentes. Mais le père Guinardon ne réclamait nul salaire. « Michel est mon patron, disait-il, et j'ai une dévotion spéciale au Saint-Ange. » Après avoir fait une partie de domino, M. Sariette, tout menu, et le père Guinardon, robuste comme un chêne, chevelu comme un lion, grand comme un Saint-Christophe, s'en allait côte à côte, devisant par la place Saint-Sulpice sous la nuit ou clémente ou furieuse. M. Sariette rentrait tout droit dans son logis, au grand regret du peintre qui était conteur et noctambule. Le lendemain, M. Sariette reprenait, à 7 heures sonnantes, sa place à la bibliothèque et cataloguait. Cependant, assis à son bureau, il jetait à tout venant un regard de méduse, dans la crainte que ce ne fût un emprunteur de livres. Il eût voulu par ce regard changer en pierre, non seulement les magistrats, les hommes politiques, les prélats qui s'autorisaient de leur familiarité avec le maître de séance pour demander quelques ouvrages en communication, mais encore M. Gaétan qui, bienfaiteur de la bibliothèque, prenait parfois quelques vieilleries grillardes ou impies pour les jours de pluie à la campagne, Mme René d'Esparvieux, lorsqu'elle venait chercher un livre à faire lire aux malades de son hôpital, et M. René d'Esparvieux lui-même, qui pourtant se contentait à l'ordinaire du code civil et du Dalloz. En emportant le moindre bouquin, on lui arrachait l'âme. Pour refuser des prêts à ceux-là même qui y avaient le plus de droit, M. Sariette inventait 1000 mensonges ingénieux ou grossiers et ne craignait pas de calomnier son administration, ni de faire douter de sa vigilance en disant égaré ou perdu un volume qu'un instant auparavant il couvait les yeux, il pressait sur son cœur. Et, quand enfin il lui fallait absolument livrer un volume, il le reprenait 20 fois à l'emprunteur avant de le lui abandonner. Il tremblait sans cesse que quelqu'un des objets confiés à ses soins ne vint à s'échapper. Conservateur de 360 000 volumes, il avait constamment 360 000 sujets d'alarme. Parfois il s'éveillait la nuit, trempé d'une sueur froide et poussant un cri d'angoisse pour avoir vu en rêve un trou sur un des rayons de ses armoires. Il lui paraissait monstrueux, inique et désolant qu'un livre quittât jamais son casier. Sa noble avarice exaspérait M. René d'Esparvieux qui, méconnaissant les vertus de son parfait bibliothécaire, le traitait de vieux maniaque. M. Sariette ignorait cette injustice, mais il eût bravé les plus cruelles disgrâces, endurait l'opprobre et l'injure pour sauvegarder l'intégrité de son dépôt. Grâce à son assiduité, à sa vigilance, à son zèle, ou pour tout dire d'un mot, à son amour, la bibliothèque d'Esparvieux n'avait pas perdu un feuillet sous son administration pendant 16 années qui se trouvaient révolues le 9 septembre 1912.